Bon début de journée, bon mercredi à tous, nous sommes le 24 avril. Les infos, François Pelleret.
Bon, comment évolue le temps aujourd'hui?
Bah c'est pas si mal, c'est pas si mal que ça. Mais
c'est moins froid.
C'est moins froid. Oui, ce matin il fait moins froid. J'ai même pas relevé la température de ma voiture. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fera entre 7 et 10 degrés au meilleur de la journée. Donc ça va évoluer vers des températures plutôt de saison. Le ciel sera couvert. On aura des petites pluies. Ça va cesser. Du soleil et puis le retour de quelques averses de temps en temps. Voilà le menu. On fera un point complet à la fin de votre journal, si vous voulez bien, François. Les hôpitaux privés accusent le gouvernement de mettre leur avenir en péril.
Oui, ils ne sont pas traités comme les hôpitaux publics dans les nouveaux tarifs hospitaliers, c'est-à-dire les sommes remboursées par la Sécurité sociale pour chaque acte médical. Ce cri d'alarme, il vient du directeur général du groupe Elsan en Moselle. Alors, le groupe Elsan représente 18 établissements dans le Grand Est, dont 8 en Lorraine. Vous connaissez la clinique Notre-Dame de Thionville, c'est Elsan. L'hôpital Claude-Bernard à Metz aussi, à Nancy, la polyclinique Majorelle ou encore le pôle lorrain de cancérologie. Ce secteur privé de la santé a appris que ses tarifs n'augmenteraient que de 0,3%. Contre une hausse de 4,3% pour le public. C'est la décision du ministre de la Santé. Alors comment résister avec un traitement pareil, dénonce le directeur général du groupe Elsan en Moselle, Gabriel Giacometti, qui est également secrétaire général dans le Grand Est de la Fédération de l'hospitalisation privée.
Entre 2019 et 2023, nous sommes passés de 10% des cliniques déficitaires à 40%, ce qui est déjà énorme. Et compte tenu des tarifs tels qu'ils nous ont été proposés, si rien n'est fait d'ici là, eh bien, nous pensons qu'il y aura 60% de nos établissements privés qui seront déficitaires. Donc il y a en plus une réelle menace sur nos outils de travail, une fragilité financière de nos établissements qui ne permettront plus d'investir et donc de permettre aux équipes médicales d'innover et de prendre en charge correctement les patients. Et puis, il peut y avoir des risques sociaux importants avec la fermeture de certaines activités. Les activités les plus déficitaires seront abandonnées par nos établissements. Nous n'aurons plus le choix.
Les cliniques et hôpitaux privés sont soutenus dans ce combat par 4 syndicats de médecins libéraux qui ont décidé de se retirer des négociations sur les tarifs avec l'assurance maladie. Les gens du voyage renoncent à organiser cet été un immense rassemblement évangélique comme celui qui avait fait polémique l'an dernier à Gros-Tanquin en Moselle-Est. D'ailleurs, l'État s'était engagé à ne plus mobiliser l'ancienne base aérienne de ce village qui avait accueilli quelques 20 000 caravanes. Non, cette année, que ce soit ici ou ailleurs, il ne devrait pas y avoir d'événement de cette ampleur car nous sommes dans une année exceptionnelle, rappelle le pasteur Joseph Charpentier.
Nous avons décidé, à la demande du ministère, de ne pas faire le deuxième rassemblement que nous avons l'habitude de faire au mois d'août. Vous savez qu'un tel rassemblement, il faut que les forces de l'ordre soient disponibles et qu'ils soient sur place. Et à cause justement des Jeux Olympiques de cet été, toutes les forces de l'ordre seront mobilisées. Il aurait fallu que nous puissions faire notre rassemblement très tardivement dans l'année et nous avons préféré annuler le rassemblement. Nous avons voulu aussi montrer notre solidarité avec le gouvernement. Le rassemblement se fera donc pour nous au mois d'août l'année prochaine.
Le pasteur Joseph Charpentier de l'association Vie et Lumière qui a convenu avec les autorités de transformer le grand rassemblement estival en 12 plus petits de quelques centaines de caravanes, 12 répartis dans l'Hexagone. On ne sait pas s'il y en aura un en Moselle. Dimanche, en revanche, plusieurs milliers de caravanes sont attendues dans le Loiret, à Nevoix, au sud d'Orléans, pour une semaine évangélique. Le maire de Mont-Saint-Martin, à côté de Longwy, était à Matignon hier pour continuer à parler de reconstruction des bâtiments publics détruits lors des émeutes de l'été dernier. Serge De Carli fait face également depuis aux réticences des compagnies d'assurance.
Pas mal de jeunes se sont assis hier au Café de l'Europe qui s'était installé devant le centre Pompidou-Metz.
Oui, même si ce scrutin fait partie de ceux qui mobilisent le moins, 50% seulement de participation en 2019, eh bien, il y avait quelques curieux pour se pencher sur cette grosse institution dont nous serons appelés à élire les députés le 9 juin. Alors pour une fois, parlons d'Europe au café plutôt que de foot ou de la pluie et du beau temps, Bastien Munch.
Il profite du soleil sur cette terrasse éphémère aux couleurs jaune et bleu. Sauf qu'entre les mains, ce n'est pas le menu des boissons.
Le café de l'Europe avec des questions sur l'Europe.
Zoé, Louise et Shanna en sont à la deuxième question.
Si vous deviez décrire l'Europe à un extraterrestre, que diriez-vous?
Moi, je pense déjà que je lui expliquerai la base, d'où ça se situe, etc. Mais après, je ne pourrais pas lui expliquer parce que déjà, nous, on ne nous explique pas. Alors, comment on pourrait expliquer à un extraterrestre?
Numéro 9. Si vous étiez élu député européen, quelle première mesure proposeriez-vous?
Clément, avec son verre d'ice tea à la main, il n'aura pas l'âge pour voter, mais il se sent quand même concerné.
C'est nous les futurs adultes et les futurs votants.
Nous sommes la future société.
Voilà, c'est ça.
Les lycéens, ils s'intéressent beaucoup aux questions européennes.
Clémence Malaret est responsable jeunesse au bureau du Parlement européen en France. Elle organise souvent des ateliers dans les lycées.
On ne va pas leur faire un cours descendant sur les institutions européennes. On va essayer de faire ça de manière ludique. Je me souviens qu'une fois, on a fait un bingo. On devait trouver dans la salle une personne qui était déjà allée dans 3 pays européen. En faisant comme ça, on découvre des choses les uns sur les autres et sur l'Europe et on se sent un peu plus européen.
Il y a 4 ans, c'est d'ailleurs chez les moins de 25 ans que le taux de participation avait le plus augmenté.
Le Parlement européen est composé de 720 eurodéputés, dont 81 français que nous élirons. Le 9 juin, une jeune chanteuse originaire de Villerue sera présente, c'est sûr, à la première séance aujourd'hui du film dédié à la vie d'Amy Winehouse.
Je veux que les gens entendent ma voix. Et oublie leurs problèmes pendant 5 minutes. Je préfère te prévenir, je suis pas une Spice Girl.
De l'école primaire.
Alors la ville russienne, c'est Pauline Mancini. Elle a une histoire particulière avec son idole, bien que la chanteuse anglaise soit morte très tôt. C'était en 2011, à l'âge de 27 ans. Parce que Pauline Mancini, il y a 9 ans, est partie sur les traces d'Amy Winehouse. Elle a rencontré sa mère, qui lui a ouvert les portes de sa maison, et donc l'univers intime de sa fille, qui était décédée depuis seulement 2 ans.
Déjà, je ne savais même pas comment agir. Je me disais, est-ce que je peux parler d'Amy? Est-ce que, enfin, on ne sait jamais vraiment comment agir. Et en fait, elle était vraiment super ouverte. Elle m'a même mis un gilet de Amy sur moi. Elle m'a dit, toi, tu peux le mettre parce que tu fais sa taille, enfin, tu fais son poids. Donc, c'était vraiment incroyable d'être vraiment là où elle a grandi. Elle me racontait des anecdotes. Enfin, en fait, elle était super heureuse de partager. Et son but, c'est vraiment de faire vivre sa fille encore. Et puis voilà, quoi, elle adore partager. Donc c'était incroyable. Encore maintenant, en fait, j'y crois pas.
Pauline Mancini, jeune chanteuse originaire de Villerue et donc qui a joué sur la guitare d'Amy Winehouse. Le biopic consacré à la chanteuse anglaise sort aujourd'hui au cinéma. Et de 5 pour Maurice et Mélodie, le couple de cigognes le plus célèbre sont les parents cette année d'un 5e cigogno, sorti de sa coquille hier, dans le nid toujours perché sur le toit de la mairie de Sarralbe, et scruté par des dizaines de milliers de fans grâce à une webcam. Il reste donc un œuf à couver.